Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde de pouvoir écouter sa parole, de pouvoir échanger autour de sa parole. C'est une bénédiction de se retrouver et nous voulons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ce temps. Merci de nous parler, merci de te révéler à nous, Seigneur. Nous voulons saisir ta pensée et... Seigneur, nous voulons apprendre à te connaître davantage au nom de Jésus. Révèle-toi à nous, Seigneur, et que tout orgueil, Seigneur, tout ce qui est lié à la chair puisse, Seigneur, se taire, disparaître, Seigneur, et que ton esprit agisse au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Nous lisons, donc nous rappelons que nous faisons une pause. Nous sommes actuellement dans le livre de... L'Ecclésiaste, c'est un livre de sagesse où le Seigneur nous exprime la pensée, sa pensée, la véritable sagesse qui vient de lui. Et nous voulons lire, donc aujourd'hui nous lisons dans le Proverbe 10, verset 22. C'est ça le cœur de notre... enseignement, notre partage de ce soir, Proverbe 10, verset 22. Et nous rappelons qu'il y a la possibilité de pouvoir interagir, mais je pense que nous allons finir un peu plus tôt ce soir, puisqu'il y a d'autres activités derrière. Et nous poursuivrons notre enseignement le mardi prochain, Dieu voulant. Donc nous lisons Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et je lis la version français courant qui nous dit, il y a des petites nuances, hein. Ici, donc la version que j'ai lue, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ici, on nous dit, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Alors il y a une grande différence. Il y a une grande différence dans les mots sur lesquels nous voulons insister. Mais dans les deux cas, ils sont complémentaires puisque dans la version que j'ai lue précédemment, on nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Et dans l'autre, on nous dit seule la bénédiction du Seigneur de l'Éternel rend prospère. Enrichi. Et on nous dit que tout ce que l'homme y ajoute n'est rien du tout. Et dans l'autre version, on nous dit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça le thème de notre étude d'aujourd'hui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et qu'est-ce qui a inspiré cette étude? C'est que vous savez, bien-aimé, Dieu dit dans Ésaïe 55, on peut le lire, hein, Ésaïe 55, on va revenir, on lit Ésaïe 55, Ésaïe 55, à partir du verset 8. Le Seigneur dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors nous allons revenir sur Ésaïe 55, mais je voulais introduire notre passage principal par... la pensée divine qui est différente de celle de l'homme. Alors, le verset, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, nous sommes dans l'étude biblique et la question que je nous pose à nous, qui sommes présents ou ceux qui nous suivent à distance, qu'est-ce que nous appelons bénédiction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... peut nous aider. Quand on dit bénédiction, à quoi ça fait référence? Qu'est-ce que ça évoque pour chacun? J'ose croire que on n'est pas tous uniformes hein, dans la, ce qu'on met derrière bénédiction, puisque la vie de tous les jours nous le fait voir. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'une bénédiction? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a des volontaires pour répondre? On fait passer le micro.
Ben, en fait, pour moi, la bénédiction, c'est tout ce qui nous rapproche, qui permet à notre âme de se rapprocher de Dieu.
Tout ce qui permet à notre âme de se rapprocher de Dieu. D'accord. Quelqu'un peut rajouter quelque chose?
Si on va un peu plus littéralement et puis dans d'autres langues, béné c'est bien, la diction, dire du bien, faire du bien, donc tout ce qui relève de la bienséance, du bon, ça fait du bien, bénédiction. Enfin, c'est d'accord. Une partie du truc.
Étymologiquement,
voilà, plutôt.
Je pense que ce mot-là, bien-aimé, dans le milieu chrétien, il y a autant de définitions qu'il y a des chrétiens, bien-aimé. Soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on met derrière bénédiction? Donc la sœur Mireille a dit, c'est tout ce qui fait du bien à notre âme, qui nous rapproche de Dieu, je crois. Naomi a dit que c'est tout ce qui nous fait du bien, c'est ça? Non, c'est pas ça?
Non, c'était plutôt, voilà, étymologiquement, comme tu disais, béné, c'est le bon, diction, dire du bien, de faire du bien. Donc, dans le sens plus général,
oui,
donc tout ce qui relève du bon, du bien.
Tout ce qui relève du bien. Alors, quelqu'un peut rajouter? Oui?
Moi, je dirais que la bénédiction, c'est tout ce qu'on reçoit de bien, mais que nous n'avons pas droit. Ça vient de la part d'une autre personne.
Amen. Voilà. Donc, bien aimé, dans tout ce que nous disons, là, tout est vrai, hein, étymologiquement. Là, ce que Rodrigue vient de dire, c'est ce que j'ai écrit. En réalité, le dictionnaire dit que le dictionnaire, hein, c'est le dictionnaire païen. Quand il parle de bénédiction, il dit que c'est une faveur venue du ciel. Oui, bien aimé, ce sont les païens. Et donc, ça rejoint ce que Rodrigue dit. C'est quelque chose, finalement, pour lequel on n'a pas spécialement fait un effort, qui nous tombe dessus comme ça. Mais en même temps, il y a quand même l'idée, comme Naomi a dit, du bon derrière. Il y a l'idée de ce qui est bien, ce qui procure d'une certaine manière une satisfaction. Est-ce que quelqu'un d'autre, oui, Diac Patrick voulait rajouter quelque chose, non?
C'est les internautes qui réagissent. Il y en a donc un qui dit la bénédiction, c'est une grâce divine.
La bénédiction. Bien aimé, tout ce qu'on dit là, c'est vrai, c'est une grâce divine. C'est ce qu'on vient de dire. Comment je veux poser ma question? Soyons, parce que là, dans tout ce qu'on dit, c'est une grâce divine, c'est très bien. Hein, on est dans des définitions spirituelles et philosophiques. Puisque la réalité, bien aimé, ta voiture est en panne, tu n'as pas d'argent. Là, quand tu atteins une bénédiction, on te dit, oh, mais tu sais, tu as la grâce divine. Je peux dire, ça t'avance dans les choses. Non, soyons honnêtes, parce que c'est ça le thème de notre étude, c'est ça. Soyons honnêtes, parce que là, on est dans des définitions. Quelqu'un qui est malade, depuis un moment, on lui dit, oh, mais tu sais, la grâce de Dieu. C'est vrai, hein, tout ça est vrai. Mais je voudrais faire une différence. On va faire en deux parties. La conception humaine de la bénédiction et la conception divine de la bénédiction pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Oui, sœur Mireille voulait rajouter quelque chose?
En fait, je voulais rajouter qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent nous sembler difficiles, mais qui, à la sortie, quand on est sorti du tunnel, c'est une bénédiction. Maintenant, si tu veux avoir la...
Est-ce que tu as des exemples de ce que tu dis?
Par exemple, admettons, je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit, il y a des exemples plus importants. Par exemple, tu rates le bus, admettons, et tu sais que tu vas avoir un problème à ton travail parce que tu as raté ton bus. Mais heureusement que tu avais raté ton bus, parce que en fait, ce bus-là, il a eu un accident. Et tu, voilà. Donc, c'est, sur le coup, c'est pas sympa. Tu te dis, je vais avoir des problèmes, etc. Mais en réalité, à la finale, eh bien, ça t'a préservé, ça a préservé ta vie. Donc, c'est une bénédiction. Donc, ça, il y en a d'autres, des exemples. Là, il m'en revient pas plus. Maintenant, effectivement, la conception humaine de la bénédiction, c'est tout ce qui est bon pour notre chair. Ça, c'est la conception humaine, mais c'est pas forcément, c'est pas ce que le Seigneur nous dit de la bénédiction, en fait.
Amen, amen, amen. Ok, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. On va aller doucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose?
Bon, il y a les internautes disent, par exemple, la naissance d'un enfant. Quand t'arrivais pas à concevoir que t'as un enfant, c'est une bénédiction.
C'est une bénédiction, oui. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter?
C'est la bonté de Dieu qui se manifeste.
Oui, la bonté de Dieu qui se manifeste. Mais ça veut dire
en fait, quoi? Là, je lis juste ce que les internautes sont en train d'envoyer hein, pour okay, faire oui, le relais, oui. En fait.
Il y a Priscilla, il y a Naomi qui veulent...
Moi, je dirais que c'est un cadeau de Dieu.
C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. D'accord, ok. Ok, donc, vous voyez, dans tout ce qui est dit là, tout est bon dans tout ce que nous avons dit. Et j'ai voulu faire la différence entre la conception humaine de la bénédiction et la conception divine. Dans la conception humaine de la bénédiction, c'est tout ce qui procure une certaine joie. Ça peut être une réussite à l'école, ça peut être la richesse... Ça peut être un rappel de salaire, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être tout ce qui est matériel, une voiture, ça peut être d'un autre ordre, tout ce qui procure la joie. C'est la conception humaine de la bénédiction. Maintenant, dans ce que la sœur Mireille a dit, vous voyez qu'il y a des choses parfois qui nous arrivent qui sont négatives. Je donne un exemple, c'est une histoire que quelqu'un m'a racontée. Vous savez, un frère, deux frères qui se retrouvent à l'arrêt de bus au Congo. Alors, Congo-Kinshasa, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais pour prendre le transport, c'est parfois tu fais une heure à l'arrêt de bus, enfin à l'arrêt, ce qui ressemble à l'arrêt, pour avoir le transport. Deux heures parfois. Alors les frères étaient là depuis trois heures, ils attendaient le transport. Et quand le transport, le bus arrive, donc ils montent dans le bus, et à 100 mètres, il voit des policiers qui arrêtent le taxi. Alors le frère dit, dans son cœur, il prie, il dit « Seigneur, ah, tout le monde sauf moi, moi je ne descendrai pas du taxi. » Alors les policiers arrivent, bizarrement ils pointent, « Allez, toi, allez, vous trois, allez, vous descendez. » Et en plus, vous savez, dans ces pays, enfin au Congo, quand ces policiers rentrent dans le taxi, eux ils ne payent pas. Ils prennent le transport déjà de façon abusive, mais en plus, quand ils arrivent à destination, ils sortent leur carte en disant « fonctionnaire Donc, c'est un manque à gagner pour tout le monde. Mais là, ils pointent du doigt le frère chrétien qui était là en train de prier en disant « Seigneur, pas moi, que je sois invisible !» Le policier dit « Allez, vous descendez !» Alors, il descend, mais découragé, déçu. Et donc, le taxi continue sa route. Et le frère marche, il marche environ trois quarts d'heure, puisqu'il n'y a pas de transport. Et il arrive à un endroit, il voit un attroupement, on lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On lui dit « Mais il y a le véhicule qui vient de passer avec des policiers qui a fait des tonneaux, tout le monde est mort sur le coup. » Vous voyez bien aimé que ce frère-là a même prié pour dire « Seigneur, ah là j'ai eu le transport, c'est ma bénédiction. » Mais vous voyez bien aimé la conception que nous avons qui est erronée de la bénédiction. C'est-à-dire que sur le coup, le frère, bah, il s'est mis en colère, hein. C'est quelqu'un qui arrive comme ça, il dit « Allez, descendez, bah, qu'est-ce que tu vas faire ? Il est armé. » Il est descendu du taxi en train de marmonner, de mais, limite, mais Dieu, si tu existes, mais pourquoi tu permets ça, quoi ? Mais bien aimé, on ne sait pas ce qui se passe devant. La bénédiction est liée à la nature de Dieu, la bonté de Dieu. C'est ça, bien aimé. Et nous n'avons pas la même conception de la bénédiction. Nous, pour nous, la bénédiction, c'est ce qui, tout de suite, produit un bonheur qui nous donne la joie tout de suite. Or, Dieu peut produire un malheur. Mais dans ce malheur-là, vous savez, Romains 8, 28 dit quoi ? Que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit de ceux qu'il a appelés. Donc, il y a un dessein, il y a un projet, il y a un plan, il y a une visée, une vision. Et le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est de nous faire comprendre cela, bien-aimé. Sortons de la pensée humaine qui fait que parfois, il nous arrive de nous jalouser les uns les autres. Tel à ceci, tel à cela, moi je n'ai pas. Alors, j'envie l'autre puisqu'il a ça. Mais bien-aimé, vous savez, nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les premiers, j'ai envie de dire, à envier. Vous savez, il y a des gens qui ont des choses, mais qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont un mari, une femme, une maison, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Il y a des adages en français, ce n'est pas la Bible, c'est en français, qui dit même vaut mieux être seul que mal accompagné. Pourtant, les gens veulent être accompagnés. Mais finalement, on se rend compte, même accompagné finalement, bah, j'aurais même voulu être seul. Mais bien-aimé, c'est ça, bien-aimé, la conception humaine. Et Dieu veut nous faire sortir de cette conception-là, bien-aimé. La bénédiction, selon Dieu, c'est tout ce que Dieu permet, positif ou négatif. C'est une bénédiction. Dans le même exemple, je me rappelle, un frère, c'était un chrétien, qui racontait cette histoire. Je crois que c'était au Brésil. Vous savez, l'Airbus qui a disparu là dans l'Atlantique. Alors ce frère devait prendre cet avion-là. Alors il a eu des soucis sur la route, embouteillage. Finalement, il arrive au moment de faire l'enregistrement. Tout est fermé. En fait, au moment où il arrive, il ferme tout à ce moment-là. Alors il s'est énervé, il a fait un scandale pour dire « Mais attendez, mais pour 30 secondes, millisecondes, là, les hôtesses disent « Monsieur, c'est terminé. » Il s'est mis en colère. Et finalement, il est rentré là où il était hébergé. Et ensuite, il apprend que l'avion s'est échoué en mer. Bien aimé, le frère qui raconte, hein, il dit, j'étais en colère puisque j'avais des engagements, j'avais des choses que je devais faire à Paris, j'avais des choses, en tout cas pour mon avenir. Mais vous savez, quand il a compris que tout ce qui a été mis sur son chemin pour rater son avion, finalement c'était une bénédiction de Dieu. Une occasion que Dieu lui offre encore pour peut-être se repentir, pour peut-être se mettre en règle, je ne sais pas, on ne sait pas. Bien aimé, vous voyez, la colère qu'il avait s'est transformé en chant de louange. C'est ça, bien-aimé, que nous voulons partager aujourd'hui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et là, on nous dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Nous lisons le psaume, on n'a pas beaucoup de temps, le psaume 73, le psaume d'Asaph. Le psaume d'Asaph. À partir du verset 1er, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne leur tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Et les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent. Ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple, le peuple de Dieu, se tourne de leur côté pour faire comme eux. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saura-t-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et vous voyez, l'idée d'Asaph, sa conception à lui, c'est que la bénédiction de ces païens, de ces méchants, finalement, elle se manifeste par les richesses qu'ils ont, malgré leur comportement qui est... Vous savez, dans ce monde, le monde tel qu'il est aujourd'hui, beaucoup s'enrichissent au détriment des autres. C'est ce qu'on voit avec les guerres. On voit, on nous a fait faire une guerre en Irak où finalement Colin Powell, qui est décédé aujourd'hui, le général, avant sa mort, a reconnu que tout ça n'était qu'une machination, que c'était que des mensonges, puisqu'il y avait des intérêts derrière, pétroliers, mais des milliards de dollars. Et les gens sont prêts à sacrifier des vies pour s'enrichir. Et Asaph voit ça, il se dit, mais ces gens-là qui n'ont pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, mais ils ont tout. Ils ont même la santé. Ils ont les richesses. Et ils continuent de s'enrichir. Et il dit alors au verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Alors, qu'est-ce que Asaph est en train de dire, bien-aimé? Que lorsque j'ai envié ces gens en disant, mais finalement, ils n'ont aucun problème. Finalement, ils vivent, entre guillemets, heureux. Mais tout ça n'était qu'illusion, jusqu'à ce que j'entre en profondeur pour comprendre que ces gens ont un sort. Bien-aimé, le compte à rebours, on se rappelle, hein, en Luc 13, on nous parle, le Seigneur Jésus parle du riche insensé qui se disait, « Oh, mon âme, réjouis-toi puisque tu as amassé pour plusieurs années. » Mais il a omis le fait que la vie qui est plus importante que les biens dépend de Dieu. C'est Dieu qui la donne. Et donc, si Dieu reprend la vie, alors tout ce que tu as amassé, pour qui sera-ce? C'est ça, bien-aimé. Le Seigneur veut nous interpeller aujourd'hui pour comprendre. Bien-aimé, les possessions matérielles, ce n'est pas ça la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est la présence de Dieu en nous. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est d'avoir Dieu. Quelles que soient les situations qu'on peut vivre. C'est ça la vraie bénédiction. Celui qui n'a pas Dieu, il est comme un ventilateur bien-aimé, vous savez, qui est débranché, il continue à tourner, mais il va finir par s'arrêter. C'est ça la réalité. Nous lisons Éphésiens 1. Ça, c'est un passage capital à connaître, bien-aimé. Éphésiens 1. Éphésiens 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus. Donc maintenant, l'apôtre Paul explique maintenant en quoi consistent ces bénédictions spirituelles. Il explique au verset 4. Donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Irrépréhensible, est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Irréprochable. Voilà. Devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On peut s'arrêter là. Il continue en disant que nous sommes devenus héritiers des promesses divines. C'est un texte qui est un peu technique, mais je voulais quand même donner l'explication de ce que Paul explique là, en disant qu'en Jésus bien-aimé, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, ces bénédictions-là, l'apôtre Paul dit, attention, les bénédictions que Dieu nous donne, ce n'est pas juste avoir une voiture, ce n'est pas juste avoir une belle maison, ce n'est pas juste avoir un bon travail, puisque ça, même les païens peuvent en avoir. Vous savez, Jésus dit dans Jean 14, 27, il dit quoi? Je vous donne. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Oui, comme le monde la donne. C'est-à-dire que Jésus parle de la paix et il dit la paix que je vous donne est différente de celle du monde. La paix du monde, elle vient quand? Lorsque tu as une mauvaise nouvelle, finalement, tu vérifies ton compte, tu vois qu'il y a un virement de 3000 euros qui est passé alors que tu étais en découvert. Ah, là, ça te donne la paix. Mais ces 3000 euros, là, le banquier peut te rappeler pour dire, ah non, non, il y a eu erreur. Ou alors la CAF te dit, bah allez, remboursez-nous 7 mois de versement. Ah ben, je peux te dire que là, la joie, elle n'est plus là. La paix n'est plus là. C'est ça la réalité, bien-aimée. La paix de ce monde, la joie de ce monde, tu as beaucoup de moyens. Je pense que tout le monde connaît un petit peu Michael Schumacher. C'était pendant plus de 10 ans le sportif le mieux payé du monde. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est dans une maison de convalescence. Ça fait 8 ans maintenant, où je crois qu'à l'époque, il devait payer peut-être 100 000 euros la semaine. Vous vous rendez compte? Tu as beau avoir 3 milliards dans ton compte, mais je peux vous dire que ça descend vite. On a vu Michael Jackson mourir endetté. Hein. C'est ça, bien-aimé. C'est-à-dire que l'illusion que tu as aujourd'hui, en un instant, ça peut disparaître. Tu peux avoir 10 millions, mais le besoin que tu as nécessite 15 millions. Ah ben, pourtant, tu les as, tu es riche. Les gens vont dire, il est riche, mais oui, mais le besoin que tu as nécessite 15 millions finalement. La richesse n'en est plus une, bien-aimé, c'est ça. Et le Seigneur nous interpelle pour nous dire que la vraie bénédiction, c'est de nous retrouver. Vous savez ce que dit le psaume 133. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est là que la vie pour l'éternité. Bien-aimé, la bénédiction du Seigneur, c'est de pouvoir recevoir des enseignements. Comme nous sommes là assis, recevoir des enseignements du Seigneur. Ce sont des richesses. Vous savez, Jésus dit à Marthe, il dit, tu t'inquiètes, tu t'agites. Ta sœur Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais parce qu'elle reçoit des richesses éternelles. Bien-aimé, je nous exhorte, puisque moi, le premier, on tombe rapidement comme Asaph. On voit des amis parfois. Tiens, ben Jean-Luc, ben tiens, moi je fais ci. Il y en a un qui, à chaque fois que je parlais avec lui, Mais tiens, il faut investir dans le Bitcoin. Tu sais, le Bitcoin, c'est l'avenir de demain. C'est le chantre. Mais bien aimé, on a vu tous l'Américain, là, le millionnaire, qui est. Je crois qu'il est même en prison aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas. En un jour, les millions de Bitcoins sont disparus. Mais bien aimé, vous savez, quand toi, tu es chrétien, tu vois toutes ces choses-là autour de toi. Ah, oh, mais regarde, ça, ça marche. Hein. Bah, regarde, ça, ça marche. Mais il faut investir hein, pour tes enfants, pour ta famille, pour. Bien aimé. On a vu Madoff, on a vu toutes ces choses. C'est là que j'arrive à notre deuxième point. Il y a une intervention, je laisse l'intervention avant.
Oui, là, il y a un internaute qui demande, quand David dit par exemple, mon âme bénit l'Éternel, que veut dire bénir ici?
Bénir, ça veut dire glorifier Dieu, ça veut dire le louer, c'est ça. C'est comme, on a dit étymologiquement, la bénédiction, c'est dire du bien. En fait, c'est ça la vraie définition, c'est... Quand on dit bénir l'Éternel, ce n'est pas que nous, on apporte quelque chose. Vous voyez encore notre définition de bénédiction. En fait, la bénédiction, ce n'est pas juste recevoir quelque chose de bon, puisque qu'est-ce que nous, on peut donner à Dieu? C'est ce que Psaume dit. Hein. Si j'avais faim, est-ce que je te demanderais, puisque les taureaux, les vaches, tout m'appartient, finalement. En fait, bénir, là, c'est dans le sens de dire des bonnes choses. Oh Dieu, mon âme, Psaume 103, hein. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Après, il décrit maintenant, c'est lui qui me délivre de la fosse. C'est lui. En fait, il dit maintenant, qui est Dieu? C'est ça même l'adoration, c'est dire qui est Dieu. C'est ça. Dans ce sens-là, bénir, c'est dire du bien de Dieu. En disant, Seigneur, malgré la situation que je vis, Seigneur, tu demeures bon. Tu demeures parfait. C'est toi qui m'as délivré de la fosse. C'est toi qui as relevé ma tête. C'est toi qui es ma gloire. C'est ça, bénir Dieu, c'est dire du bien de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Et oui, il y a une intervention.
Oui, du coup, hormis le fait de savoir qu'on est enfant de Dieu et qu'on nous sommes bénis, en tout cas sous la bénédiction de Dieu, le Seigneur, en nous créant, il savait bien qu'on était fait de chair et qu'on a aussi besoin de quantifier les choses, de les voir. On sait qu'on est sous sa richesse, sous sa bénédiction, sous sa coupe. Donc voilà, mais okay, comment en fait, quantifier ça des fois, c'est normal qu'on ait besoin aussi de voir que quand on prend une décision, une direction que lui nous ordonne ou nous conseille, bien qu'on voit le fruit de ça.
Oui,
en fait. Pas toujours pourtant.
En fait, nous, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu est bon indépendamment de tout ce qu'on peut voir ou entendre. C'est ça le vrai problème entre Dieu et l'homme, c'est ça. C'est que, comme tu dis, en tant qu'humain, nous, on veut quantifier. Or, Dieu, c'est. Adam a eu la possibilité de voir. Il a vu ce qui dominait, il a vu tout ça. Maintenant, Dieu a changé. Donc, Dieu, lui, il veut qu'on compte tout simplement sur sa bonté. Et puisqu'il est bon, alors on estime qu'on accepte le fait que tout ce qu'il permet est aussi bon. Même si on ne voit pas tout dans les détails, mais on accepte que Seigneur, ce que tu permets dans ma vie est bon. C'est ça. En fait, Dieu ne veut pas qu'on quantifie justement puisque quantifier, ça va le ramener à l'état humain de la définition de bénédiction qui est de voir des choses, de... Non, voilà. Donc Dieu veut qu'on croie tout simplement en sa bonté, en son amour pour nous. Et cela suffit. Alors, on n'a pas besoin d'autres éléments pour confirmer que Dieu nous aime. Et c'est là maintenant qu'on arrive, bien-aimé, à notre deuxième point. Hein. C'est ce que j'ai prévu, c'est que la bénédiction de Dieu est liée aussi au plan de Dieu. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Joseph qui est vendu par ses frères. Pourtant, Joseph a eu des promesses. Joseph a fait des songes qu'il a partagé avec ses frères et ses parents, qui c'est ce qui a généré justement cette méchanceté. On se rappelle même que Ruben en cachette est venu pour sortir le petit du puits, pour le préserver. Mais bien aimé, les choses ne sont pas passées comme ça. Pourtant Ruben a eu de bonnes intentions pour le sauver, mais les choses sont passées autrement puisque Dieu avait un autre projet, il avait un autre plan. La bénédiction de Joseph passait par le fait qu'il soit vendu, qu'il soit esclave, qu'il soit près du roi. Et dans toutes ces choses, on nous dit que Joseph était béni, il bénéficiait de la grâce de Dieu. Tout ce qui touchait, c'était béni. Partout où il allait, La présence de Dieu est avec lui. C'est ça, bien-aimé, et c'est ce que nous voulons partager ensemble pour nous dire que, bien-aimé, la bénédiction de Dieu est liée aussi à son plan. Dieu ne fait pas des choses pour nous amuser. Non, Dieu a un projet. Et dans ce projet-là, il y a un cheminement. Il y a un chemin par lequel il nous fait passer. C'est là que Romains 8, 28 prend tout son sens, bien-aimé. Et d'où le fait de ne pas vouloir uniformiser les choses. Vous savez, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on est devenu comme les Américains, des pragmatistes. Vous savez, l'Américain, quand il voit que tu fais un business popcorn, ça marche, il va venir, bon, comment t'as fait? Bon, j'ai fait comme ça. Ben, il va faire aussi le même business, plus ça marche. Il est pragmatique. Et dans les milieux chrétiens, aujourd'hui, on a des auteurs, des gens qui écrivent, voilà comment je fais. Et on veut faire du copier-coller, mais ça ne marche pas. Puisque Dieu, lui, il a son propre cheminement. Il a sa propre voie. David a été un roi. Mais David a dû errer comme un animal. Et un jour, David a fini par être roi. Mais toute cette errance-là, tout cet échec humain, bien-aimé, est-ce que c'était un échec aux yeux de Dieu? Pas du tout. Vous savez, quand Jésus dit qu'il faut, dans Matthieu 16, à Césarée de Philippe, il faut que je meure, que je sois livré. Pierre dit quoi? Il dit non. Toi, tu es trop grand pour ça. Toi, tu es le Fils de Dieu. Tu es trop puissant. Bien-aimé, vous voyez notre conception à nous. On se dit, puisque la chose vient de Dieu, elle ne peut qu'être positive à premier abord. Non, ça peut être aussi négatif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'Anne? On nous dit que Anne, c'est Dieu qui l'avait rendue. Mais bien-aimé, est-ce qu'on peut comprendre que la stérilité d'Anne était une bénédiction? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ou pas? Ah, c'est difficile à comprendre, hein? C'est très difficile à comprendre, très difficile à accepter que Dieu rende quelqu'un stérile, mais dans cette stérilité-là, il y a une bénédiction. Pourquoi? Puisque ça a poussé Anne, comme Asaph, comme la sœur Mireille a dit, à chercher Dieu, à chercher la pensée de Dieu, à chercher la volonté de Dieu, à s'unir avec Dieu, comme Asaph dit, « J'ai pénétré dans tes sanctuaires, j'ai compris ta pensée. » Bien-aimé, vous voyez que nous n'avons pas les mêmes échelles en tant qu'humain. Voilà pourquoi on a lu Ésaïe 55, où Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » C'est ça, bien-aimé. Que Dieu nous aide à saisir cela. Que Dieu nous aide à comprendre sa pensée à lui, à comprendre que la bénédiction n'est pas toujours ce qui fait plaisir tout de suite, non. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, comme Éphésiens 1 nous dit, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, dans tous les malheurs que nous avons, comme Joseph a dit à ses frères, vous m'avez fait du mal, mais Dieu a utilisé ça comme une bénédiction. Puisque dans ce mal-là, Dieu a sorti du bien. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur veut nous apprendre. C'est ça que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, bien-aimés, que nous puissions saisir cela. Et il dit que le Seigneur dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, regardons le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, bien-aimés. Excusez-moi, je veux parler un peu, je vais prendre l'exemple, c'était la Coupe du Monde de foot. Vous savez, il y a un joueur comme Cristiano Ronaldo. Vous vous rendez compte que le monsieur qui a fait la gloire, 5 Coupes du Monde, aujourd'hui tu te retrouves sans club, dans l'équipe nationale où tu avais une place incontestée. Tu ne joues même pas. Bien-aimé, vous voyez, c'est ce que Dieu dit, hein, c'est la vérité. Puisque la gloire de ce monde va toujours laisser un goût amer. Combien, moi le premier, hein, on ne s'est pas réjoui de dire la France est en finale, mais vous savez, comme on a l'habitude de le dire, dans un match, il y a un gagnant et un perdant. Donc forcément, s'il y a un gagnant, bah, les restes, ils vont pleurer. Mais bien aimé, vous voyez, tu as la joie de dire, alors on est en demi-finale, il y a un petit repli de 4 jours, 5 jours, mais pendant ces 5 jours-là, tu n'es pas tranquille parce que vous n'avez pas encore gagné. Et finalement, ceux qui ont suivi le match, vous avez vu de rebondissements. En tout cas, ceux qui ont des problèmes cardiaques, je pense que jusqu'à la fin, que de rebondissements. Mais bien aimé, vous savez, c'est ça qui m'a inspiré. Ça, je dis, mais vraiment, ce que le monde produit, ça peut te produire un spectacle jusqu'à la fin. Mais à la fin, il y a toujours le petit goût d'amertume qui vient, qui te rappelle que tout ça, c'est rien, ça va passer. C'est ça, bien aimé. La question, c'est que reste-t-il après, quoi? Qu'est-ce qui reste après? Qu'est-ce qui reste après? Le chagrin. Le chagrin, regardez Michael Schumacher, plus grand sportif de tous les temps, aujourd'hui devenu légume. Bien-aimé, voilà ce que ce monde produit. Or, la Bible nous dit que ce que Dieu produit, il n'y a pas d'amertume derrière. C'est une vraie bénédiction. Mais ça passe par une construction. C'est ça la réalité, bien-aimé. C'est ça la réalité. Regardez M. Sarkozy. Depuis qu'il a fini son mandat, il passe son temps au tribunal, tribunal. Et vous savez, au tribunal, le juge respecte la procédure. Hein. C'est-à-dire que quand y a un protocole, tu arrives, chaque prévenu se présente. Mais bien aimé, est-ce que tu vas dire, bah, écoutez, moi tout le monde me connaît. Ben non. J'ai suivi ça. Hein. Le juge qui dit, monsieur, déclinez votre identité. Mais vous savez, tu as envie de dire, mais attendez, mais mon CV, vous le connaissez? Mais non, non, non. Déclinez, qui êtes-vous? Donc là, tu dis, bon, je suis monsieur un tel, j'ai tel âge, je suis marié, j'ai tant d'enfants, j'étais président de la République, j'étais... Mais bien aimé, vous rendez compte? Mais peut-être que nous, on en parle comme ça, on est assis tranquille, mais pour ces gens-là, c'est humiliant. C'est humiliant de te mettre là comme ça et... Dans les procès, parfois même ta vie personnelle, ta vie intime, tout est mis à nu. Parce que c'est le procès. On va épulcher tous tes comptes, on va tout épulcher, tout est... Mais bien aimé, vous vous rendez compte combien... C'est ce qu'Azaph dit, hein. Il dit qu'ils sont sur une pente glissante. Ils montent, ils montent, ils montent. On se souvient tous de DSK. Aujourd'hui, on n'en parle plus, hein, DSK. On n'en parle plus, Dominique Strauss-Kahn. On n'en parle plus. C'est ça, bien-aimé, ce que ce monde produit. Il y a toujours un goût amer. Alors pourquoi chercher ça? Pourquoi chercher ce que le monde produit? Le Seigneur a dit non, moi la paix que je vous donne, les biens que j'ai à vous donner n'ont rien à voir avec ce que ce monde donne. Elles sont d'une autre nature. Donc c'est valable pour la paix, mais c'est valable pour les bénédictions, ce qu'on appelle bénédiction. C'est valable pour la joie. C'est valable pour tout, puisque on est de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide à saisir cela, à saisir que ce qui compte, ce que lui soit là. Vous savez, c'est ce que Exode 33, Moïse dit à Dieu, que si tu ne marches avec nous, si tu ne viens avec nous, alors moi, je ne partirai pas non plus, puisque avoir Dieu, c'est avoir toutes les bénédictions, puisqu'il est là. Psaume 127 nous dit que si l'Éternel ne bâtit, tous ceux qui bâtissent, ils travaillent en vain, bien-aimés. Mais ils travaillent, ils produisent des choses, ils produisent, mais à la fin, il n'y aura plus rien, bien-aimés. C'est ça. Vous vous rendez compte, quelqu'un comme Bernard Tapie, millionnaire. Et tout le monde convenait pour dire, vous savez, le monsieur, il a tout fait. Hein. Il a tout réussi. Non seulement il a fait, mais il a tout réussi. Homme d'affaires, homme politique, journaliste. Et en plus, quand je dis journaliste, le type, il parle, débatteur. Il a tout fait. Tout. Il a tout réussi. Mais regardez une vie pendant 20 ans, procès sur procès. On lui demande l'argent. On lui rend l'argent. On lui redemande l'argent. On lui rend l'argent. Et finir avec un cancer et mourir. Et j'écoutais dernièrement que sa femme se retrouvait avec beaucoup de créanciers, beaucoup de dettes. Bien-aimé, vous voyez Quand vous voyez aux informations, on vous dit, voilà, il a gagné 400 millions, 500 millions. On se dit, mais waouh. Mais bien aimé, tout ça n'est que mirage. C'est ça, bien aimé. Que le Seigneur nous aide à intégrer cela, à comprendre que la bénédiction, ce n'est pas ce que nous pouvons voir de physique, puisque tout ça n'est rien du tout. Ça va passer. Vous savez combien se sont dit, je prends ma retraite, je vais vivre dans le sud. Mais nous sommes témoins pour voir, hein, dans le Gard, dans le Var, mais que des inondations, bien-aimés. Que des inondations. T'es même en Normandie, tu dis, mais il pleut tout le temps comme aujourd'hui, toute la journée, mais au moins t'as pas ces inondations-là. Ils se sont dit, on va chercher le soleil. Bien-aimés, il y a toujours un goût d'amertume qui est derrière. C'est ça, bien-aimé. Et le Seigneur nous exhorte à comprendre ce que lui, il appelle bénédiction pour nous. Nous allons nous arrêter là, bien-aimé. Je voulais faire cette introduction pour définir qu'est-ce que la bénédiction selon l'homme et qu'est-ce que la bénédiction selon Dieu. Et nous continuerons la semaine prochaine. Et que le Seigneur nous aide vraiment à intégrer cela et à voir les choses différemment, lorsque le malheur s'abat sur nous, ne pas être prompt à vouloir accuser Dieu, non bien-aimé, mais à avoir la tête froide pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce malheur ?» Puisque nous avons dit que Dieu est bon, alors tout ce qu'il permet est une bénédiction. Vous savez, Lamentations 3 nous dit que ce n'est pas en vain que Dieu humilie le Fils de l'homme. Non, il a un objectif. Il a un projet, il a un plan. Nous, on ne le voit pas toujours. Mais lui, sait. Vous savez, quand Job a souffert, nous, on a le panorama, on voit l'histoire comme un film. Mais Job, lui, ne savait pas ce qui se passait. Mais Dieu a permis ces souffrances-là, puisqu'il pouvait lever le doigt et dire, y a un humain qui m'aime plus qu'il n'aime les biens que je lui donne. Bien-aimé, vous savez, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Puisque Satan part du postulat en disant, oui, Job t'aime, puisqu'il a beaucoup de richesses. Dieu lui dit, écoute, prends ces richesses, on verra. Ah, Satan lui dit, la peau pour peau, si on s'attaque à sa peau, sa santé, tu verras que les choses vont changer. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Job, on nous dit, ne pécha point. Certes, il s'est posé des questions. Certes, il s'est questionné. Certes, il a cherché à comprendre. Mais, bien-aimé, comprenons que d'avoir le Seigneur, d'être là comme nous sommes assis, à recevoir des enseignements, d'avoir le souffle de vie, de comprendre qui est Dieu, bien-aimé, c'est plus grand que toutes les richesses qu'un homme peut chercher, peut désirer. De savoir que j'ai un Dieu à qui je peux parler, vous savez, quel ami fidèle et tendre, à qui je peux me confier, lui dire des problèmes. Bien aimé, il y en a qui ont des moyens, mais qui vont voir des psychiatres, des psychologues. Et le psychologue lui-même va voir aussi un psychiatre ou un psychologue. Et c'est sans fin. Et nous avons l'Éternel comme Dieu. Je voulais faire cette introduction. Nous poursuivrons le mardi prochain. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre. Le thème, c'était le chrétien et la bénédiction. Puisque on a rapidement une conception de la bénédiction qui reste une conception humaine où on veut quantifier les choses, où on veut compter, où on veut, bien aimé, les richesses que Dieu nous donne sont beaucoup plus élevées, plus grandes que ce que ce monde peut produire. Et la Bible nous dit même que ce monde passera et tout ce qui est avec au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour te dire merci pour, Seigneur, cette première partie, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides à intégrer, Seigneur, que, Seigneur, la plus grande bénédiction, c'est de te connaître, Seigneur. La plus grande bénédiction, Seigneur, c'est de t'avoir comme Dieu. C'est cela la plus grande bénédiction. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à comprendre aussi que, Seigneur, parfois tu permets des choses négatives, mais qui ont un objectif, Seigneur, pour nous ramener de plus en plus proche de toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons murmuré, Seigneur. Nous nous sommes mis en colère, puisque nous n'avons pas compris, puisque ça traîne, puisque rien ne se passe. Aide-nous à saisir ta pensée, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.